La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Vous écoutez
RMC. RMC, en route pour Paris 2024.
On attaque avec la discipline olympique par excellence, pas forcément historiquement celle qui réussit le mieux à la France, même si l'espoir renaît depuis cette moisson de la délégation tricolore au récent championnat d'Europe. On parlait évidemment d'athlétisme. 16 médailles pour les Bleus à Rome, dont 4 en or. Et si cela était un présage pour les Jeux Olympiques à domicile, on va essayer de ne pas trop s'emballer. Mais elle a été le premier sourire immense de cette délégation tricolore dans la capitale italienne, en décrochant samedi dernier la médaille d'argent sur l'heptathlon. Oriana Lazracla, c'est notre invitée dans votre magazine olympique. On est ravis qu'elle ait accepté l'invitation de RMC. Bonjour Oriana.
Bonjour à tous.
Oriana, je le disais, samedi dernier, une semaine pile pour cette médaille d'argent sur l'heptathlon au championnat d'Europe d'athlétisme à Rome. Est-ce que tu es toujours sur ton petit nuage, difficile d'atterrir? On l'imagine, peut-être pas encore envie d'atterrir.
Oh bah, je pense que j'ai très envie de rester sur mon nuage le plus longtemps possible, mais je suis quand même retournée à l'entraînement. Là, ça fait 2 jours, parce qu'on a encore du travail jusqu'à Paris.
Et oui, j'imagine, cette médaille d'argent, c'est la première médaille de ta carrière en grand championnat. Pas mal pour débuter ce qu'on espère être une belle moisson.
Ah bah ça, c'est sûr. Et puis j'en ai pleinement profité, et surtout je me suis battue pour l'avoir, parce que c'était vraiment pas écrit d'avance. Devant moi, c'est la double championne olympique, triple championne d'Europe. Franchement, pour moi, cette médaille, elle vaut de l'or, parce que je suis allée au bout de moi-même, je suis allée chercher le meilleur résultat possible. Donc franchement, tellement heureuse. Et puis surtout, l'équipe de France a tellement bien suivi derrière, avec tellement de médailles. Et puis surtout, même si on n'a pas eu le record de médailles, qui est de Zurich 2014, ouais. Et franchement, celle-là, on n'est pas près de l'avoir, même si c'est vrai qu'il y avait quelques absents dans l'équipe de France. Ben nous, en tant que femmes, on a quand même battu le record de médailles sur les championnats d'Europe.
C'est ça, l'athlète français féminin va mieux, beaucoup mieux, entre autres grâce à tes performances. Justement, tu as devancé un petit peu ma question suivante. Le podium, est-ce que c'était un véritable objectif en arrivant à Rome, ou est-ce que tu pensais seulement à te qualifier pour les Jeux de Paris? On rappelle que tu as battu ton record de points en battant 5 de tes 7 records personnels dans la discipline et en égalant ta meilleure perf à la hauteur.
Ben oui, moi c'était vraiment l'objectif premier quand je suis arrivée aux championnats d'Europe, parce que je savais que j'avais les minima dans les jambes, et moi je comptais bien être au rendez-vous à Paris, donc c'était mon objectif premier. Surtout que en regardant les engagés, il y avait quand même du coup celle qui gagne, Nafissa Toutiam, la Belge, et aussi la dernière championne du monde en titre, Katarina Johnson-Thompson, l'anglaise. Donc allez, il restait une place sur podium, mais on est quand même 24, donc si on enlève les deux potentiels déjà médaillés, on était 22 pour une place. Ça fait vraiment pas beaucoup. Donc il fallait vraiment faire un hepta exceptionnel pour réussir à choper cette place-là, et les étoiles se sont alignées pour moi. C'est exactement ce que j'ai fait.
Et oui, avec le parfum des hautes altitudes et l'adrénaline de la compétition, il y en a que ça inhibe, et toi, ça t'a stimulé. Oriana Lazracla, toute récente vice-championne d'Europe des heptathlons, et notre invitée dans En route pour Paris 2024, votre rendez-vous chaque week-end autour de l'actualité olympique. Oriana, j'ai cru comprendre qu'on t'avait attendu de pied ferme à ton retour dans ton club de Metz en Moselle, la deuxième. Raconte-nous un peu l'accueil qui t'avait été réservé.
Je rentrais mardi dernier, et j'habite seule, je suis toute seule, donc je prenais le train pour revenir à la vie normale, comme on a l'habitude de le dire.
Je crois qu'on a un petit problème de liaison avec Oriana, parce que je pensais que c'était le retour dans mon casque, mais je crois que la liaison est un petit peu faible. Oriana Lazracla, je le disais, toute récente vice-championne d'Europe sur l'heptathlon, c'est une discipline de l'athlétisme. C'était à Rome la semaine dernière, 7 épreuves, c'est l'équivalent féminin du décathlon. Oriana, tu es de retour?
Désolé, oui. Cette petite confiance.
C'est nous qui sommes désolés. Je le disais, on t'a réservé un accueil de rockstar pour ton retour dans ton club en Moselle. La deuxième, raconte-nous un petit peu.
Bah oui, du coup, là, ceux qui étaient disponibles sont venus me récupérer à la gare, etc. J'ai reçu un bouquet de fleurs et surtout beaucoup de félicitations, beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour en fait, parce que ils étaient très impressionnés. Et c'est des gens que je connais, que je vois au quotidien, donc ça m'a énormément touchée qu'ils viennent me chercher à la gare. Et après, le maire de Metz et le maire de, enfin le président de mon club m'ont organisé une petite cérémonie aussi pour me récompenser avec Quentin Bigot, qu'il ne faut pas oublier, de mon club, qui était aussi qualifié pour les championnats d'Europe. Avoir deux athlètes comme ça, d'un club, même si nous étions en élite cette année, on faisait partie des meilleurs clubs de France, ça reste quand même exceptionnel. Donc franchement, ça fait chaud au cœur d'être récompensé et d'être célébré comme ça par un club, surtout mon club de cœur. Ça fait 19 ans que je suis chez eux et je les adore.
Mais ça doit donner évidemment beaucoup de confiance pour la suite des échéances. L'appétit vient en mangeant, on le sait, on le dit. Est-ce que tu t'autorises à viser une médaille à Paris? J'ai vu que tu avais déclaré « Moi, j'y vais pas pour aller voir la Tour Eiffel ».
Oui, cette phrase « Faut rendre à César ce qu'il y a à César », c'est mon coach qui l'a sorti et bien sûr, j'adhère complètement à son propos. Non, quand on est sur un stade d'athlée et c'est pour ça que j'ai réussi à avoir ma médaille à Rome, bah on y va pour faire la meilleure version de soi-même, se dépasser et donner tout ce qu'on a, parce que en plus quand on représente son pays et tout ce qu'il peut y avoir derrière, ben on se doit de tout donner quoi. Donc moi, même si pour y aller, ben je n'avais pas de médaille à Rome, ben là quand j'irai sur Paris, bien sûr que j'irai chercher toutes mes tripes la médaille, une médaille olympique.
Oriana, comment est-ce qu'on vient à l'heptathlon? Je le rappelais là pendant qu'on a perdu la liaison, pour ceux qui n'auraient pas fait de grec au collège ou qui ne regarderaient pas l'athlétisme, c'est 7 épreuves combinées. Pardonne-moi d'avance ma question, comment on vient à l'heptathlon? Est-ce que c'est parce qu'on est forte partout ou au contraire parce qu'il n'y a aucune spécialité dans laquelle on a une chance de gagner en individuel?
Eh ben, un peu des deux, je pense. Oui, c'est vrai que l'heptathlon, c'est 7 épreuves en 2 jours. Donc, faut être, je pense, forte partout. Et aussi, moi, je me suis dirigée là-dessus parce que j'étais jamais la plus rapide. J'étais jamais la meilleure, celle qui sautait le plus haut ou qui lançait le plus loin. J'étais bonne. Je me trouvais dans les 5 premières, je pense. Mais j'étais jamais la meilleure. Et du coup, ben, sachant que tout me plaisait, que j'avais des compétences et des aptitudes pour tout faire, ben c'est comme ça que j'ai décidé de me diriger vers l'heptathlon. Et je suis très contente que l'athlétisme propose une variété immense de disciplines comme ça, parce que du coup, on trouve toujours ce qui convient en fait dans l'athlétisme.
C'est quelle est l'épreuve que tu préfères et à l'inverse, celle que tu aimes le moins dans le programme de l'heptathlon?
Eh ben, c'est une question que j'aime pas du tout, parce que pour moi, je fais de l'heptathlon parce que j'aime tout en fait. J'ai pas d'épreuve que j'aime le moins ou que j'aime le plus. C'est vrai qu'en fonction des entraînements et on va dire des saisons, il y en a certaines où on arrive plus à s'exprimer. Mais là, je veux dire, après un heptathlon comme ça, je me suis exprimée dans toutes les disciplines. Oh, mais j'adore enchaîner mes épreuves, quoi.
Oriana Lazraklas, vice-championne d'Europe d'heptathlon, c'était la semaine dernière du côté de Rome et notre invitée de En route pour Paris 2024. Elle est lancée comme un frelon vers les Jeux Olympiques après cette performance. Oriana, un petit mot, tu l'as mentionné tout à l'heure sur Quentin Bigot, ton collègue de la deuxième, 9e seulement du concours de marteau à Rome. Il lui reste 2 occasions de se qualifier pour les Jeux, sera à 3 ce week-end et à Angers à la fin du mois. Est-ce que tu l'as croisé depuis votre retour? Dans quel état d'esprit se trouve-t-il?
Eh ben oui, je pense très fort à lui parce que les championnats d'Europe à Rome, ça restait un rendez-vous auquel il fallait être présent ou au moins qui aurait facilité sa qualification olympique. Bon, moi je m'en fais pas trop pour lui, il a de l'expérience. Moi je l'ai revu du coup cette semaine et il est remonté à bloc, surtout comme je le rappelle avec les résultats de l'équipe de France, on a tous envie d'y être en fait à Paris. Donc je pense qu'il va bien se prendre en main et il va donner le maximum sur les 2 échéances qui restent pour pouvoir être à ce rendez-vous.
À toi, Oriana, quand on te parle des Jeux Olympiques, c'est quoi l'image qui te vient en tête spontanément, ton plus grand souvenir à la télévision?
Moi, j'ai commencé l'athlétisme parce que j'ai vu les Jeux Olympiques de Athènes en 2004. Donc, pour moi, les Jeux Olympiques, c'est un rêve de gosse, en fait. Oui. J'ai commencé à 6 ans l'athlétisme en me disant, si je continue à m'entraîner encore 10 000 fois, ben, j'irai aux Jeux Olympiques, quoi. Donc, Oui, vraiment, c'est quelque chose qui me gonfle la poitrine, c'est quelque chose qui me met des étoiles dans les yeux. C'est vraiment le rêve de ma vie, en fait. Donc, oh là là, c'est vraiment incroyable et j'ai tellement hâte de vivre ça à Paris.
T'as une idole dans l'athlétisme ou dans d'autres sports ? Il y a des sportifs que tu rêves de croiser au village olympique ?
J'aimerais beaucoup croiser Clarisse Abdeninou. C'est quelqu'un qui défend énormément de valeurs. Et une très belle personne, une championne incroyable, oui, du judo. Et si j'ai l'occasion de déjeuner avec elle au village olympique, je serais très heureuse.
Dernière question, c'est quoi la suite et la fin de la préparation d'ici les Jeux ? Est-ce que cette médaille d'argent là, au championnat d'Europe a changé quelque chose à ton programme ?
Eh bien, vu que je suis à l'antenne avec vous, ça a changé quelque chose quand même. Mais concernant le programme athlétique, je vais faire les championnats de France à Angers, donc à la fin du mois. Ensuite, il y aura un test event pour aller découvrir le Stade de France avant du coup la grande échéance, pour qu'on puisse, en tant que Français, avoir un petit avantage et tester les infrastructures. Et après ça, ben, il y aura le pré-camp, un camp de préparation avant les Jeux Olympiques pour retrouver encore l'équipe de France et se souder encore un peu plus pour avoir le bel esprit d'équipe qu'on a pu voir là pendant les championnats d'Europe.
Sur la lancée et l'euphorie de ces championnats d'Europe réussis, entre autres grâce à ta belle médaille d'argent, Oriana Lazraklas, vice-championne d'Europe de l'heptathlon, c'était samedi dernier. Merci beaucoup Oriana d'être passée par l'intégrale Euro 2024 et d'avoir partagé cette toute récente expérience. On veut la boîte à Paris, hein, maintenant, désolé, mais tu nous as déjà mal habitués. On veut la médaille et on sera ravis de suivre tes performances sur RMC. Merci encore, Oriana.
Et ben, merci à vous.
Bonne préparation.
Je donnerai tout, je peux vous le promettre.
Je crois que ça, les auditeurs de RMC l'ont déjà compris. Merci beaucoup et à bientôt, Oriana. Vous ne bougez pas.
À bientôt.
Vous ne bougez pas, l'intégrale Euro 2024. Mais pas que, vous l'avez compris, se poursuit dans un instant. On va parler de natation, les championnats de France. Figurez-vous qu'on a encore aucun qualifié pour les Jeux Olympiques. On va demander à Julien Richard et Sophie Camoun comment ça se fait. A tout de suite sur RMC. Comme chaque week-end et à 41 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, on est dans notre magazine En route pour Paris 2024. Avant de parler de natation, tenez, je vous signale qu'à 74 jours des Jeux Paralympiques, eh bien à Charletti, hier, le sprinteur non-voyant Timothée Adolphe et son guide Geoffrey Lamy ont battu le record d'Europe du 400 mètres, 50 secondes, 0,3 centièmes. C'est la deuxième performance de l'histoire. Voilà qui augure de belles choses pour les Jeux Paralympiques que vous suivrez évidemment sur l'antenne de RMC. On poursuit notre magazine olympique. L'actu, c'est aussi la natation avec les championnats de France. Ça débute demain à Chartres avec les séries du 100 mètres papillon femmes. Ça se termine vendredi sur RMC. Vous ne manquerez rien des grands moments de ce qui sera la seule chance de se qualifier pour les Jeux. Chez nous, qui dit maillot de bain et bonnet de bain dit Julien Richard, qu'on est ravi de retrouver. Salut Julien.
Salut Simon, salut à toutes et à tous.
Julien, toujours pas de nouvelles d'Anne Hidalgo. Elle a dû remiser son plongeon dans la Seine et toi aussi, du coup, je crois, à cause des élections. Quel dommage.
Oui, d'abord à cause du courant.
Oui.
Parce qu'il y a trop de débit dans la Seine. Et puis après, ouais, il y a 2-3 trucs qui se passent en ce moment dans le pays qui sont un peu plus importants que la baignade dans la Seine ces dernières heures. Donc c'est un peu repoussé, mais on ne perd pas espoir d'aller barboter dans la Seine.
Et les auditeurs de RMC non plus, parce que
avec
Julien
un
Richard
grand plaisir.
Voilà, sera l'un des seuls journalistes autorisés, accrédités pour suivre le plongeon de l'édile de la ville de Paris. Évidemment, on croise les doigts, Julien. Sophie Camoun, consultante de la Dream Team RMC, 26 fois championne de France, finaliste olympique à Los Angeles en 84, était avec nous aussi, évidemment. Salut Sophie.
Salut Simon, salut Julien.
On va parler, donc, je le disais, de ces championnats de France de natation qui s'ouvrent à Chartres avec Julien. On en rappelle l'importance, je le disais en intro, personne n'est encore qualifié pour les Jeux, pas même Léon Marchand.
Oui, c'est la règle, c'est comme ça que ça se passe en natation. Il n'y a qu'un seul point de passage obligatoire pour se qualifier aux Jeux Olympiques, c'est cette semaine et c'est donc à Chartres que ça va se dérouler, les championnats de France, donc de demain à vendredi, qui servent de support pour les sélections olympiques, avec une règle finalement assez simple mais qui fait un peu trembler tout le monde évidemment à la veille de ce début de ces championnats, c'est qu'il faut déjà terminer dans les deux premières de chaque course, hein, aux deux premières places, mais en plus il faut réaliser un temps de qualification, un temps extrêmement exigeant, hein. Un chrono qui en gros correspond entre la 12e et 14e place des derniers Jeux Olympiques à Tokyo. Donc voilà la donne. Ils connaissent le chemin pour y arriver, pour se qualifier, pour voir Paris dans 5 semaines maintenant, un peu plus. Eh bien, il faut terminer aux deux premières places et réaliser le chrono. Et c'est pas une partie de plaisir, hein, ces championnats, généralement pour les nageurs, notamment pour Florent Manodou, le capitaine de l'équipe de France, qui vise ses 4e JO et qui pourtant, vous allez l'entendre, n'est pas fan de ce genre de rendez-vous.
Non, c'est la pire compète, hein, les sélections olympiques, parce qu'on n'a rien à gagner, tout à perdre. Donc c'est pas forcément la compète où il y a le plus de bonnes ondes, mais le job, c'est de se qualifier pour les Jeux qui sont dans 5-6 semaines maintenant. Donc voilà, on a tous très hâte de bien nager sur cette semaine. Je me rappelle de Fred Bousquet en 2015 qui avait fait une intoxication alimentaire la veille et qui n'avait pas participé aux 50 nages libres. Donc il y a toujours cette petite peur de ça, de tomber malade la veille, de glisser sur le plot, d'avoir une crampe, j'en sais rien, mais un petit truc qui arrive 1% du temps, mais on a quand même ce petit truc dans la tête. J'ai fait le temps toute l'année, donc normalement ça devrait le faire, mais il y a toujours... Enfin, ce sera mieux jeudi soir après mon 50, ouais.
Sophie, on est inquiète pour Florent Manodou, on est inquiète pour les autres. Il y en a qui peuvent glisser au bord de la piscine et rater les Jeux alors qu'ils ont tout ce qu'il faut pour y aller.
Ah, les sélections olympiques, c'est rude. Moi, j'appelle ça toujours la semaine couperet. C'est le gros couteau qui va trancher des têtes, mais tu ne sais pas exactement où il va tomber. Après, pour Léon, j'ai envie de dire, on est plutôt tranquille parce qu'il a 4 chances de se qualifier. Il a une marge énorme sur les autres et sur le chrono de qualif. Pour Florent Manodou, c'est un peu différent parce que c'est du 50. Donc, sur un 50, la précipitation, une petite erreur de course peut te faire perdre rapidement plusieurs centièmes, voire 2-3 dixièmes. Et puis, il y a des garçons derrière, il n'y a que 2 places. Donc, voilà. Il est peut-être dans une situation un peu plus stressante que Maxime Grousset ou Léon Marchand. Mais bon, normalement, ça devrait passer. Mais c'est vrai que c'est un stress extrêmement négatif. Voilà, les sélections olympiques, c'est le plus mauvais souvenir. Moi, c'est le plus mauvais souvenir de ma carrière. C'est violent, c'est radical. C'est soit tu es qualifié aux Jeux Olympiques, soit tu rentres à la maison. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, pour les nageurs, tu as l'impression de jouer ta carrière en quelques secondes. Même le sentiment, pour certains d'entre eux, de jouer leur vie. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, pendant cette semaine, la natation, c'est tout simplement c'est toute ta vie et que les Jeux Olympiques, c'est le Graal. Donc, si tu ne te qualifies pas là, la prochaine échéance, c'est dans la prochaine chance de te qualifier, c'est dans 4 ans. Et dans la vie d'un sportif, c'est hyper compliqué de se projeter. Donc, ils jouent très, très gros, tous ces nageurs, pendant cette semaine.
Et la prochaine échéance, c'est dans 4 ans. Les prochains Jeux à domicile, c'est dans 100 ans. Donc, en effet, c'est comme les bons élèves, hein, même quand ils ont travaillé avant un examen, il y a toujours le stress, évidemment, du passage devant l'examinateur. Julien, quels seront les moments forts de ces championnats de France?
C'est vrai qu'on a tous un peu les yeux rivés sur le phénomène, hein. Léon Marchand, donc un tube champion du monde, record man du monde du 400 mètres 4 nages, et c'est intéressant de voir ce qu'il va faire cette semaine. Alors, la dernière fois qu'il a nagé en France, c'était l'an dernier aux sélections pour les championnats du monde de Fukuoka, donc déjà il est rare en France, donc il sera devant le public français, et puis de voir où il en est, parce que on a vu ses engagements, il sera aligné uniquement sur les épreuves qu'il compte disputer aux Jeux Olympiques de Paris, contrairement à l'an dernier où il s'était un peu plus dispersé, il avait nagé un peu d'autres choses. Donc on le verra sur 400 mètres 4 nages, sur 200 mètres 4 nages et puis sur une très intéressante journée où il va une sorte de répétition enchaînée, 200 mètres brasse, 200 mètres papillon, comme il pourrait le faire aux Jeux Olympiques. On rappelle, il n'a pas encore totalement arrêté son choix. Il y a ce défi d'enchaîner 200 mètres dans la même journée. Il aura une sorte de mini répète ici à Chartres. C'est un peu le sens de ce qu'il nous disait ici. Et puis aussi, c'est important, je le disais, passer au public français. L'an dernier, il avait eu pas du mal à le gérer, mais il avait avoué que c'était un peu lourd d'avoir tous les regards sur lui, c'était un peu nouveau. Là, évidemment, il y a beaucoup plus de monde encore que l'an dernier à Rennes, beaucoup plus d'attentes, mais vous allez voir qu'il prend ça un peu avec philosophie.
Oui, je vais profiter parce que c'est vrai que c'est rare que les Français s'intéressent autant au sport et à la natation surtout. Donc, on va en profiter. Je vais essayer de faire mon mieux possible dans l'eau. Et c'est vrai que j'espère que les gradins sont remplis, ce sera cool. Donc, je ne me suis pas vraiment préparé concrètement. Mais voilà, j'ai fait l'expérience l'année dernière comme tu l'as dit et je pense qu'il faut que je sois un peu plus naturel avec tout ça et que je fasse ce que j'ai envie de faire au jour le jour et puis c'est que du kiff en vrai donc voilà.
Léon Marchand, cool as a cucumber, comme disent les Anglais, cool comme un concombre. Sophie, on parlait évidemment beaucoup de Léon Marchand, c'est notre torpille à nous. Un petit mot sur lui et puis sur les autres nageurs et nageuses à suivre cette semaine. Qui doit confirmer, qui peut se révéler?
On a une équipe de France qui progresse. Les meilleurs nageurs français progressent. On l'a vu en 2022 et en 2023 à chaque fois au championnat du monde. On a des Maxime Grousset qui a été champion du monde l'année dernière sur 100 mètres papillon. Quand on est champion du monde, on doit forcément viser une médaille olympique. Marie Wattel qui a été un petit peu dans le dur ces deux dernières années, mais qui est en train de bien revenir, même si elle a été blessée cette année. Je crois qu'elle a des grosses ambitions de podium olympique. Et puis on a toujours nos dossistes, Mewen Tomac et Johan Endoy-Brouwer, qui là aussi vont devoir se qualifier. Sur 100 dos, ça devrait passer. Sur 200, ils sont 3, 4 pour deux places. Donc là aussi, c'est pas forcément évident d'être présent le jour J, tout en sachant que malgré tout, ils sont pas totalement préparés. C'est-à-dire que ces nageurs-là, comme ils ont une ambition de podium olympique, ils ne peuvent pas se permettre d'être au maximum de leur forme au championnat de France. Donc l'idée, c'est d'arriver à passer sans être au meilleur de leur forme pour pouvoir aller décrocher ensuite une médaille au jeu. Donc il y a cette difficulté-là supplémentaire qui est liée au fait qu'il y a 5 semaines seulement entre les qualifs olympiques et les JO.
Bon, en tout cas, on va se régaler avec ce couperet, cette qualification vue pour les Jeux. On va vibrer pour ces championnats de France de natation qui débutent à Chartres demain et qui dureront jusqu'à vendredi. On n'en manquera pas une miette sur RMC. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Sophie. Et à très vite sur l'antenne de RMC. On poursuit notre magazine olympique avec le rendez-vous que vous attendez tous. C'est le JT olympique. C'est Morgane Maury qui s'y colle aujourd'hui. Notre spécialiste. Salut Morgane.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
La question qui brûle les lèvres de tous les auditeurs de RMC, qui sera porte-drapeau le 26 juillet sur la Seine? Ça y est, la campagne, c'est digne d'une campagne politique, est lancée. On connaît en tout cas les candidats.
Oui, les candidats pour les porte-drapeaux ont été dévoilés cette semaine, 14 pour les JO, 4 pour les Jeux Paralympiques, avec notamment le nageur Florent Manedou, la footballeuse Wendy Renard, la disco-ball Mélina Robert-Michon et le perchiste Renaud Lavilloni comme favori. Ces athlètes ont été choisis par leur fédération et vont désormais devoir séduire leurs collègues sportifs. Pierre Thévenet les a interrogés.
Et pour séduire, ils ont tous tenu à rappeler à quel point être porte-drapeau serait un honneur, comme la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon.
C'est une fierté en plus à Paris de pouvoir représenter toute cette équipe de France. On est tous l'équipe de France et on est tous là pour les mêmes raisons, donc il faut y aller.
La footballeuse Wendy Renard s'y voit déjà.
Quand on voit le groupe France, cette délégation qui arrive et avec le porte-drapeau qui est devant, je pense que ça envoie un message fort.
Pour être candidat, il fallait ne jamais avoir été porte-drapeau, avoir participé à des Jeux Olympiques et répondre à des critères d'exemplarité. La judokate Romane Dico coche toutes ses cases. Elle a commencé son opération de séduction sur ses réseaux sociaux.
Hello à tous, je suis Romane Dico, membre de l'équipe de France de judo, double médaille olympique, championne du monde et capable championne d'Europe. Et je vous annonce aujourd'hui que je me porte officiellement candidate pour être porte-drapeau aux Jeux Olympiques de Paris 2024, ville où je suis née et où j'ai grandi.
La double médaille olympique présente même son programme.
Si je suis élue, je compte m'investir pleinement dans cette mission, que ce soit avant, pendant et après les Jeux. Me situant entre deux générations, je compte à la fois rassembler et faire le lien entre les plus jeunes et les plus expérimentés pour former ensemble une équipe de France unie et solidaire.
Pas question pour autant de se lancer en campagne et d'aller convaincre les autres athlètes. Le nageur Florent Manoudou, en pleine préparation pour les Jeux, va laisser les choses se faire.
Je ne pense pas que les sportifs aiment trop faire campagne et je n'ai pas forcément envie de pousser des gens à voter pour moi ou de faire changer des votes. C'est vraiment quelque chose d'assez naturel pour moi de voter pour notre futur porte-drapeau.
Même son de cloche chez le boxeur Sofiane Oumia, qui compte quand même sur sa bonne humeur pour gagner quelques voix.
Je me dis aussi, peut-être les athlètes m'aiment bien, pour la personne que je suis avant les sportifs. Donc c'est pour ça que je me dis, au final, j'ai aussi toutes mes chances, ça mettra aussi notre sport qui est la boxe en lumière.
Désormais, le choix est dans les mains des athlètes qui vont voter pour désigner les deux porte-drapeaux qui mèneront la délégation française sur la Seine lors de la cérémonie d'ouverture. Verdict le 12 juillet prochain.
Une vraie campagne, comme en politique. Morgane, une semaine importante s'ouvre, on en parlait à l'instant, pour la natation française du côté de Chartres.
Oui, l'Odyssée, c'est le long de cette piscine de Chartres où vont se dérouler les championnats de France, passage obligé pour obtenir son billet au JO. Tout le monde est là, Léon Marchand est venu des États-Unis, Florent Manedou aussi, tout comme Maxime Grousset, champion du monde du 100 mètres papillon, qui s'avance un peu dans le flou. Les chronos cette saison ont parfois été frustrants, mais pas d'inquiétude pour le nageur calédonien qui veut se qualifier sur 50 mètres nage libre, 100 mètres nage libre et 100 mètres papillon et surtout faire descendre les chronos. Il l'a expliqué à Julien Richard.
Ça reste une compétition entre guillemets comme les autres et je suis là avant tout pour kiffer le moment. Non, je me sens bien, voilà, je suis confiant, voilà, je suis bien. L'objectif c'est de nager vite, de nager bien, de construire des bonnes courses pour les Jeux aussi. c'est faut pas voir que Chartres. C'est sûr que il faut se qualifier, il y a, comme on disait, le coup près. Mais derrière, il y a autre chose et il faut aller voir un peu plus loin.
Morgane, des nouvelles de la flamme olympique ?
Elle est arrivée à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, ce matin, sur une embarcation de choix, le Maxi Trimaran Banque Populaire, avec à son bord deux champions, le skipper Armel Lecléache et la triple championne olympique d'athlétisme Marie-Josée Pérec. Dans la baie de Pointe-à-Pitre, on retrouve notre envoyée spéciale, Léna Marjac. Léna, est-ce que c'est la fête pour l'enfant du pays, la grande championne Marie-Josée Pérec ?
Oui, forcément, ça a été la fête. Je sais pas si vous entendez derrière moi. Normalement, il y a un petit son d'ambiance qui devrait partir avec les milliers de personnes qui étaient là à l'accueil du Maxi Trimaran Banque Populaire, avec à son bord, vous l'avez dit déjà, le skipper Armel Lecléache et bien sûr Marie-Josée Pérec. Et ces milliers de personnes, ces milliers de Guadeloupéens étaient là. Et forcément, il y a eu énormément d'émotions. Déjà, écoutez-les.
Des larmes aux yeux et ça fait vraiment plaisir de voir revoir Marie-Josée Pérec revenir au pays. J'en ai même encore la chair de poule puisque c'était une grande émotion et puis on était vraiment contentes de l'accueillir chez elle, qu'elle se souvienne encore de nous et puis qu'elle se rende compte qu'elle est encore dans nos cœurs. Voilà.
C'était un moment très émouvant, j'ai même lâché quelques larmes, je suis encore émue. Donc c'était beau, c'était très très beau, je tenais à être là.
Énormément d'émotions et puis voir notre Marie-Jo représentée, c'était quelque chose d'incroyable.
Parce qu'on a vu cette Marie-Josée Pérec sortir du Maxi Trimaran, elle aussi les larmes aux yeux, avec cette fameuse flamme olympique dans les mains. Elle a fait après une 200 mètres à peu près avec cette flamme olympique, avec les applaudissements du public bien évidemment pour l'accueillir sur ses terres. Hein, parce qu'elle est guadeloupéenne, elle est revenue chez elle et c'était un symbole que Marie-Josée Pérec, triple médaillée olympique, soit la première relayeuse sur ses terres. Et écoutez ce qu'elle a vécu, parce que pendant une semaine, elle a été sur l'eau, sur le Maxi Trimaran, et de revenir ici, c'était forcément beaucoup, beaucoup d'émotions pour Marie-Josée Pérec.
C'est vrai que la vie à bord, c'était quand même assez compliqué. On va peut-être pas tout raconter, mais juste que c'est une aventure humaine parce qu'on a partagé un petit espace en fait à 7. Ça rejoint un peu ce qu'on vit dans un village olympique, parce que on discute avec les athlètes, on se livre un peu. Moi, je trouvais que ça ressemblait en fait à ça. Donc.
Merci beaucoup Léna Marjac, notre vestale de la rédaction RMC Sport qui veille sur la flamme olympique et qui suit son parcours pour vous les auditeurs. Merci beaucoup Morgane Maury, à tout à l'heure pour parler un petit peu auto et à demain pour le JT, à demain pour le JT olympique, avec notamment pas mal de résultats à nous donner.